Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. À l'heure où j'enregistre ce message dans notre studio d'Allen, dans le Texas, une grande incertitude règne sur le résultat de la campagne électorale pour l'élection d'un nouveau chef d'État français dont le second tour aura lieu dimanche 7 mai. Nous saurons très bientôt qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera la victoire. Mais pourra-t-on parler vraiment de victoire dans un pays aussi divisé que la France, l'Amérique, la Grande-Bretagne et plusieurs autres nations européennes de souche israélite? Voilà des siècles que des gouvernements se succèdent, que les vieilles monarchies ont été remplacées volontairement ou involontairement et parfois sanguinairement par des républiques plus ou moins instable. Que veut le peuple? C'est bien là une question ancestrale qui a fort à faire avec sa question jumelle. Que veut Dieu? N'est-ce pas? Et quand ces questions sont soulevées irrémédiablement, l'efficacité de nos gouvernements humains est sérieusement remise en question. Il n'est guère de pays où l'on soit satisfait du gouvernement ou de l'État. Mais à quand remonte cet inextricable dilemme? Le problème ne remontera-t-il pas au XIIe siècle avant notre ère, il y a plus de 3000 ans, à une époque où Israël décida de rejeter Dieu et insista pour avoir un roi comme toutes les nations d'alentour? Le prophète Samuel fut étroitement impliqué dans cette transition qu'il désapprouva. Qui était Samuel? Je me propose aujourd'hui d'étudier avec vous sa vie et de vous laisser tirer plusieurs des leçons que nous pouvons apprendre de ce fidèle serviteur de l'Éternel. Samuel vécut de 1148 à 1052 avant notre ère. Sa vie marqua la fin de la période dite des juges, qui avait débuté vers 1446 avant notre ère. Pour nous situer, l'Exode avait eu lieu vers 1486 avant notre ère. Les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise vers 1446 avant notre ère, soit 40 ans après avoir erré dans le désert du fait de leur rébellion et de leur désobéissance. Et c'est en gros vers 1446 que la période des juges avait commencé. Elle allait, d'après Actes 13-20, je ne m'y reporterai pas, mais vous pouvez noter si vous voulez, elle allait durer environ 450 ans. Pendant cette période, il y eut un certain nombre de juges, comme Othoniel, Ahod, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephté, Abzan et Samson. L'histoire de Samuel débute lorsque le juge et sacrificateur Élie était en fonction, à une époque où le sacerdoce était en plein déclin. On peut lire au chapitre 3 de 1 Samuel que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. On lit cela au verset 1. Et le silence de l'Éternel était dû à l'indifférence du peuple à l'égard de la voix divine. De Moïse à Samuel, il n'y eut pas de prophète en Israël. Et quand parut Samuel, la prêtrise était corrompue. Comme je le disais, le ministère était tombé bien bas. Le sacrificateur Élie négligeait son sacerdoce. On peut lire ceci dans 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29, nous allons nous y reporter. Et nous serons dans 1 Samuel pas mal de fois pendant ce message aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29, parce que c'est surtout dans 1 Samuel qu'il est question du prophète Samuel. Le deuxième livre de Samuel ne concerne pas Samuel, mais essentiellement David. Samuel chapitre 2 et 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Les fils d'Élie étaient corrompus. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 2 et le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Élie était fort âgé. Il est précisé au chapitre 4 et au verset 15 qu'il avait 98 ans quand il mourut. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Et on a comme une idée qu'il n'y avait pas réellement beaucoup de force et beaucoup de conviction dans cette réprimande. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. On peut lire à la fin du livre des Juges que, pendant cette période, entre l'entrée dans la terre promise, quelque 450 ans, en ce temps-là, il n'y avait point de roi, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On peut lire cela dans Juges 21, verset 25, tout à la fin du livre des Juges. Juges 21, 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Notre époque, où bien des pays deviennent ingouvernables, ressemble beaucoup à celle des Juges. C'est dans ce contexte que le jeune Samuel entra en scène. Son histoire est celle d'un juge fidèle, autant d'un sacrificateur infidèle. Dès sa jeunesse, Samuel s'attacha à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 3 et le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. On peut voir donc qu'il y avait du zèle dans l'attitude de Samuel. Tout ce que l'Éternel disait, il le prenait très au sérieux. Samuel, d'après Acte 3, 24, je ne m'y reporterai pas, mais d'après ce passage, Acte 3, 24, il était aussi un prophète. Donc il était juge, mais il était aussi prophète. Voici de quelle manière il devint serviteur de l'Éternel. Samuel naquit à Rama, dans le territoire d'Éphraïm, d'un Éphratien nommé Elkana et de son épouse Anne. Enfant, il fut consacré à l'Éternel par sa mère Anne, qu'il reçut comme un cadeau de Dieu alors qu'elle était stérile. Celle-ci l'emmena vivre chez le juge et sacrificateur Élie alors qu'il était enfant. Et c'est là que l'Éternel se fit connaître à Samuel. Nous allons nous reporter maintenant à 1 Samuel chapitre 3 et le verset 1. 1 Samuel chapitre 3 et le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ?» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, et alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais l'Éternel appela de nouveau Samuel, donc une troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » On voit l'attitude d'Élie, sans qu'il les ait réprimés. Élie n'a rien fait pour changer l'attitude de ses fils. Intéressant, n'est-ce pas? Cela nous indique la situation à l'époque. À nouveau, le ministère était tombé bien bas. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, on peut bien le comprendre. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il me répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ?»« Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Élie dit, « C'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Et une certaine attitude désinvolte, n'est-ce pas, bon, qu'il fasse ce qui semblera bon. Il est clair dans ce passage qu'une cassure s'est produite. L'Éternel ne s'adresse plus à Élie directement pour lui communiquer sa volonté. C'est très significatif. Il s'adresse au jeune Samuel. Et à cette époque-là, évidemment, s'il était jeune, il pouvait avoir néanmoins 40 ans. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. D'après des passages comme 1 Chronique 6, 16 et 33, 1 Chronique 6, 6, 16 et 33, il s'avère que Samuel était de la tribu de Lévi, et il était donc qualifié pour servir dans le tabernacle. Et c'est précisément ce qu'il faisait, comme l'indique le début du chapitre 3 que nous venons de lire. Samuel était sacrificateur. Il offrait des sacrifices pour le peuple et intercédait auprès de ce dernier, comme lorsque les Philistins attaquèrent Israël. 1 Samuel chapitre 7, verset 9, 1 Samuel chapitre 7 et le verset 9. 1 Samuel 7, 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Son nom, le nom de Samuel, signifie « Dieu a exaucé » ou « Dieu a entendu » ou « entendu de Dieu ». 1 Samuel chapitre 1, verset 20. Il est un fait que sa naissance fut miraculeuse, exigea une intervention directe de l'Éternel, comme ce fut le cas d'Isaac, de Jacob, de Samson et bien plus tard de Jean-Baptiste. Samuel fut le dernier des juges. Le livre des juges nous parle de 12 juges. Le premier livre de Samuel en ajoute 2, Élie et Samuel. On peut donc dire qu'il y en avait 14 en tout. Comme je le mentionnais il y a quelques minutes, après la mort de Josué, la nation d'Israël connut donc une période de juges, telle qu'évoquée dans Ruth 1:1. À nouveau, je ne me reporterai pas à ce passage, vous pouvez simplement le noter. Et la nation n'avait pas de gouvernement centralisé. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Essayez d'imaginer. Un prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui communique la volonté de Dieu. Avant Samuel, il y eut Moïse. Il semble, d'après 1 Samuel 19, que Samuel ait aussi formé d'autres prophètes. On peut lire en effet ce qui suit dans ce passage. Reportons-nous à 1 Samuel chapitre 19 et le verset 18. 1 Samuel chapitre 19 et le verset 18. Et sans doute ce passage inspira-t-il, il y a un certain nombre d'années, M. Armstrong, qui décida qu'il avait besoin d'aide, qu'il ne pouvait pas accomplir tout seul la mission que Dieu lui avait donnée, la mission de l'Église, et s'est rendu compte que nous avions besoin de ministres, ou au moins d'aide, d'un personnel qualifié dans divers domaines, et c'est donc ce qu'il a fait, et c'était un modèle ici que nous trouvons dans ce passage. 1 Samuel, chapitre 19, verset 18. Rappelez-vous que David avait dû s'échapper de la cour du roi Saül qui cherchait à le faire mourir. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant « Voici, David est à Najoth, près de Rama ». Verset 20, Saül envoyait des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Intéressant, n'est-ce pas? Un groupe de prophètes ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Samuel était aussi naziréen. Comme Samson, il fut consacré dès son enfance. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. 1 Samuel, chapitre 1, et le verset 11. elle fit, il s'agit de sa mère Anne, un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Pour en savoir plus sur le Naziréat, vous pouvez vous reporter à Nombre 6 et les versets 20 et 21, si vous le voulez, vous pouvez faire cela plus tard si cela vous chante. Nombre chapitre 6, versets 20 et 21. Je ne m'y reporterai pas à ce stade, faute de temps. Mais il est clair qu'il y eut du temps de Samuel un renouveau dans le culte de l'Éternel, et il est précisé dans le second livre des Chroniques que, de son temps, on se remit à observer la Pâque de manière significative. Il est en effet écrit ceci à propos du roi Josias et du peuple, et nous allons nous reporter à 2 Chroniques chapitre 35 et le verset 18. 2 Chroniques 35 et le verset 18. Aucune Pâque pareille à l'époque de Josias, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, ce qui indique donc qu'il y a eu un renouveau du temps de Samuel, où on a observé de la bonne manière la Pâque de l'Éternel. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias, roi de Juda, qui régna de 637 à 607, que cette Pâque fut célébrée. Fin de citation. David a écrit de lui qu'il invoquait le nom de l'Éternel, que Samuel invoquait le nom de l'Éternel. Psaume 99 et le verset 3. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Alors David reconnut cela à propos de Samuel. C'était un homme à part, un homme différent des autres, qui invoquait l'Éternel, qui se souciait de ce que l'Éternel voulait, quelle était sa volonté. Samuel occupe donc une place importante dans la Bible. Il clôtura une période de déclin et instaura une période monarchique de 4 siècles. Ce qui est symbolique, c'est qu'au début de son ministère, les Philistins dominaient sur Israël. Et l'arche de l'Éternel ne lui était plus, lui, il s'agit d'Israël, d'une grande utilité apparemment. Israël avait abandonné son Dieu et n'observait plus les commandements de l'Éternel. Samuel guida cependant Israël vers une grande victoire contre les Philistins, païens, à Ébénézer, dont il est question au chapitre 7. Il est écrit, à nouveau je ne ferai que citer ici, au chapitre 7 de 1 Samuel, il est écrit que les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Il y eut donc la paix pendant toute sa vie, la paix en Israël pendant toute sa vie. C'est le chapitre 7 et le verset 13 où il est écrit, où ceci est écrit. Un bon nombre d'années de Samuel pourrait se résumer par les versets suivants. Et nous allons nous reporter à 1 Samuel 7, 1 Samuel chapitre 7 et le verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, Il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Samuel fut cependant apparemment trop occupé par ses fonctions sacerdotales pour bien éduquer ses enfants, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. Et le problème qui s'était présenté avec Élie semble s'être de nouveau présenté avec Samuel, malheureusement. Donc Samuel était un grand serviteur de l'Éternel, il avait des grandes qualités, mais question éducation de ses enfants, là aussi il y a eu un problème. 1 Samuel chapitre 8, verset 1. 1 Samuel chapitre 8 et le verset 1. Et là, il commit une erreur, comme nous allons le voir. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Il n'aurait pas dû faire cela. Bon, peut-être qu'il y avait peut-être personne d'autre pour faire le travail, comme on dit. Mais connaissant ses fils, il aurait dû être plus strict. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Essayez d'imaginer. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Le sacerdoce était de nouveau sans dessus-dessous. Les fils de Samuel ne suivaient pas les traces de papa. Pour eux, le sacerdoce était probablement un boulot de plus, avec de profitables dividendes. Mais ils ne respectaient pas l'Éternel. Les versets suivants ont fort à faire avec mon introduction de ce qui se passe dans nos pays occidentaux, de souche israélite, comme la France, la Belgique, l'Angleterre, la Suisse, les États-Unis, plusieurs autres. Nous avons atteint une autre époque où chacun semble vouloir faire ce qui lui semble bon. Or, comme on peut le lire dans Proverbes 14:12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce principe est si important qu'il est répété un peu plus loin, dans Proverbes 16:25. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est répété une deuxième fois pour bien nous montrer que cela, c'est important pour nous. Ces versets établissent le piteux constat de nos raisonnements humains. Nos nations israélites ne se sont jamais remises de la décision fatidique qu'ils ont prise il y a plus de 3000 ans, du temps de Samuel. 1 Samuel chapitre 8, verset 4. 1 Samuel chapitre 8 et le verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Et il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme des produits ou du produit de vos semences et de vos vignes, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête, et conduira nos guerres. » En d'autres termes, ils n'ont pas écouté ce que Samuel leur a dit de la part de l'Éternel. Ils avaient la tête ailleurs, vous savez, quelquefois, on refuse d'écouter la vérité. Mais c'est ce qu'ils firent. Ils refusèrent d'écouter la vérité. Ils refusèrent d'écouter ses avertissements. Et la situation n'a guère changé, n'est-ce pas? Nous sommes toujours à essayer de trouver un bon gouvernement qui fonctionnera, qui nous permettra d'être heureux, qui nous permettra d'être prospères, etc., etc. Des siècles et des siècles plus tard, c'est toujours la même chose. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en, chacun dans sa ville. » L'humanité, dès le départ, n'a pas voulu de théocratie. Elle n'a pas voulu que Dieu lui dise quelle est la voie du vrai bonheur et de la vraie réussite. Elle n'a voulu n'en faire qu'à sa tête. Et nous récoltons encore les fruits amers de cette décision démente. Sans doute le ministère avait-il aussi sa part de responsabilité dans ce choix. Il est clair, d'après les Écritures, que les sacrificateurs et les Lévites ne faisaient pas leur travail. Ainsi sont les hommes. Telle est la nature humaine. Samuel avertit le peuple, mais ce dernier n'écouta pas. Il préférait voter. Bon, il y a une place pour le vote. Mais quand on cherche trop la démocratie, on oublie l'Éternel. Et c'est ce que nos nations essaient de trouver, la démocratie. Demander à chacun son avis. Ah, il faut penser au peuple, à ce que le peuple pense, à ce que le peuple veut. L'Éternel ne lui accorda cependant pas au peuple à cette époque-là le privilège de se choisir lui-même le premier roi. Mais lui donna un roi qui, comme il le savait, lui plairait. Samuel, enfin l'Éternel, connaissait bien le peuple et il dit « Je vais trouver quelqu'un qui sera bon pour eux. Ils l'accepteront. » Il désigna lui-même le roi qui allait régner sur Israël, quelqu'un qui avait belle allure. Car ce qui comptait pour eux, c'était ce qui attirait les regards. Et cela n'a guère changé, n'est-ce pas? On regarde les apparences. 1 Samuel chapitre 9, verset 1. 1 Samuel chapitre 9 et le verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. L'Éternel provoqua un concours de circonstances par lequel Saül entra en contact avec Samuel. Vous connaissez l'histoire, nous sauterons donc directement au verset 25. Au verset 25 de 1 Samuel 9, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Dieu avait, on voit toujours, ce qui est formidable, la miséricorde de Dieu dans toutes ces situations. Dieu regarde son peuple, il a pitié malgré tout, bien qu'il sache que son peuple s'embarque dans la mauvaise direction, mais il s'adapte, il dit « bon, si c'est ce qu'ils veulent, laissons-les faire ». Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Verset 27 maintenant. « Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant. » Il parle maintenant à Saül. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint que tu sois, pour que tu sois le chef de son héritage ?» Samuel fut donc l'instrument dont Dieu se servit pour faire monter sur le trône d'Israël le premier roi, son premier roi. Au chapitre 11 et au verset 14, Saül fut confirmé comme roi à Gilgal, et l'on se livra à de grandes réjouissances. Et au chapitre 12, Samuel retrace son cheminement. 1 Samuel, chapitre 12, verset 1. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel, et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains, ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. » Il essaye de leur rappeler un peu leur histoire qu'ils avaient oubliée. « Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. » Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte, et les firent habiter dans ce lieu. Vous ne vous souvenez pas? Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoyait Jérubbaal, Bedan, Jephté et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient. Et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous. » Cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. N'oubliez pas votre histoire. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Ne refaites pas les mêmes erreurs. « Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et on verra du tonnerre et de la pluie, ce qui était inhabituel à cette époque-là. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. » Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Mais c'était temporaire, ils eurent une grande crainte de l'Éternel, mais comme de par le passé et toujours dans l'histoire d'Israël, ils craignaient à certains moments, et puis ils disaient, « Oh, nous allons changer, mais c'était de courte durée. Tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. » Et probablement Samuel savait que c'était un peu des paroles en l'air, parce qu'ils avaient beau promettre des choses à cette époque-là, comme leurs ancêtres, cela n'allait pas durer longtemps. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Quelle miséricorde, quel Dieu extraordinaire nous avons, quelle patience il avait pendant tout ce temps, n'est-ce pas ? Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie pour vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Ce roi, comme il fallait s'y attendre, ne demeura pas longtemps fidèle à l'Éternel. Sur ses 40 ans de règne, de 1090 à 1050 avant notre ère, il ne fut apparemment que quelques mois fidèle à l'Éternel. Au chapitre suivant, au chapitre 13 et au verset 1, nous lisons en effet qu'un incident grave eut lieu après que Saül ait régné seulement 2 ans sur Israël. Seulement 2 ans. 1 Samuel chapitre 3 verset 5, 13 pardon, 1 Samuel chapitre 13 et le verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, c'est important, selon le terme fixé par Samuel. Samuel avait donc donné des instructions à Saül. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Emmenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit ce qu'il n'était pas autorisé à faire, l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, évidemment, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, raisonnement humain, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. » Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Oh, quelle excuse bancale. Je me suis fait violence. Et que j'ai fait offert l'Holocauste, que j'ai offert l'Holocauste. Cas typique de raisonnement humain. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Plus on a de pouvoir, plus il est humainement difficile de ne pas se laisser aller à l'orgueil. Plus il est difficile de rester humble et de garder les yeux fixés sur l'Éternel. Samuel fut témoin d'un autre incident grave, impliquant directement Saül. 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, et le verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Cela peut paraître cruel pour bien des gens, mais rappelez-vous que c'était des gens qui étaient totalement pervertis. Et Dieu avait une bonne raison pour vouloir éliminer ces gens-là et leur donner une chance à la seconde résurrection. Saül convoqua le peuple et en fut la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda, une armée immense à l'époque. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, ce petit mot est important, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à l'Éternel, à Samuel, et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il y avait de quoi, frères et sœurs. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Il est parti s'ériger un monument. Comme si ce qu'il venait de faire était formidable et qu'il avait réellement besoin de faire ces choses. Mais beaucoup de chefs d'État aiment bien s'ériger des monuments, n'est-ce pas? Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Il blâme quelqu'un d'autre, c'est pas lui qui est responsable là-dedans, ils les ont amenés chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. » Tiens, mon œil. C'était certainement pas ce qu'il voulait faire. Quel mensonge. Et le reste, et nous l'avons dévoué par interdit. Le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Oui, tout ce qui était chétif et méprisable. Samuel dit à Saül, arrête ton char bénur. arrête donc de me raconter des bêtises. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ?» Parce que c'est effectivement ce qu'il s'est fait. Il s'est jeté sur le butin, lui et les autres. « Et pourquoi tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Saül, est-ce que tu te souviens des ordres qui t'ont été donnés ? Quel culot ! J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, à nouveau, on blâme le peuple. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices. Ça m'étonnerait, franchement. Des prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Je doute fort que c'est ce qu'ils avaient l'intention de faire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la loi, la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Samuel intronisa donc le premier roi d'Israël, et il le déposa quelques années plus tard. Cette situation était très symbolique et hautement significative pour nous. Il y a en effet des leçons magistrales à apprendre de ces récits. Que l'homme est incapable de se gouverner et que nos raisonnements humains nous égarent souvent. L'histoire confirme ces aspects clés. Samuel, comme on peut le comprendre, était déchiré et irrité de constater le fiasco du premier gouvernement humain d'Israël. Dieu s'y attendait probablement. Or, l'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 16 et le verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Lorsqu'ils entrèrent, verset 6, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Non, Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Il répondit, « Oh, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Il devait y avoir un certain mépris dans cette déclaration. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, intéressant, à ce moment-là, alors que Dieu a décidé qu'il serait le nouveau roi, l'Esprit de l'Éternel est parti de Saül et nous avons donc un nouveau roi, David. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les chapitres suivants relatent les hauts faits et les victoires de David, qui dut se cacher pendant de longues années pour échapper à Saül, qui, dès lors possédé d'un démon, cherchait à le faire mourir. Il n'est plus question de Samuel, de manière significative, qu'au chapitre 25. Où on peut lire ce qui suit, hein, Samuel chapitre 25 et le verset 1. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Et David devint officiellement roi à l'âge de 30 ans, et il régna 40 ans. 2 Samuel 4, versets 4 et 5, pour ceux que cela intéresse, si vous voulez une référence. Il avait donc 30 ans quand il devint roi et il régna 40 ans, de 1050 à 1011 avant notre ère. Que pouvons-nous tirer des points saillants de la vie de Samuel? Sa naissance fut miraculeuse. Ça me fait penser que ma naissance à moi, dans l'Église, a été aussi miraculeuse, la vôtre aussi. Il a fallu un miracle pour que notre esprit, à vous et à moi, soit ouvert. Un miracle divin. Deuxièmement, il fut et demeura juste dans un environnement corrompu. Intéressant, c'est la même chose qui nous est demandée à vous et à moi, de demeurer juste dans un milieu, dans un environnement totalement corrompu et de plus en plus corrompu. Il fut consacré à l'Éternel et lui demeura fidèle toute sa vie. Même chose pour nous, frères et sœurs, même chose pour nous. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Nous sommes les prémices et nous devons nous aussi demeurer fidèles à l'Éternel toute notre vie. Quand il vécut, quand Samuel vécut, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et tout le monde autour de nous fait la même chose, et les gouvernements en même temps. Il n'y a point de bon gouvernement humain. Chacun fait ce qui lui semble bon. Il y a de plus en plus de manifestations de nos jours parce que tout le monde veut faire ce qui lui semble bon. Il n'y a plus de discipline, nous sommes devenus ingouvernables. Il n'y a plus de centre dans beaucoup de pays. Le centre maintenait en quelque sorte l'équilibre pendant longtemps, mais là il n'y a plus que la droite ou la gauche, et les deux s'opposent, et il n'y a plus de centre. Nous sommes devenus ingouvernables. Nous avons chacun nos idées, nos opinions, et cela ne va pas nulle part, ne va nulle part, n'est-ce pas? Samuel invoquait l'Éternel, et il cherchait sa volonté. Ce doit être la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous devons, nous aussi, invoquer l'Éternel, et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous cherchons sa volonté. Samuel fut témoin de l'abandon désastreux par son peuple de la théocratie. Dieu était leur roi, pour débuter, mais le peuple ne voulut plus de Dieu comme roi. Il dit, non, on veut un roi comme tout le monde. L'Éternel, non. Dieu est notre roi. Dieu est notre roi. Nous sommes témoins, nous aussi, de l'abandon désastreux par le peuple de l'Éternel. L'abandon de l'Éternel, c'est ça que je veux dire. Samuel fut impliqué dans l'intronisation du premier roi d'Israël. Cela, eh bien, est-ce que nous aurions fait la même chose si nous avions été là à cette époque? Il fut témoin de l'égarement de ce premier roi d'Israël. Nous sommes témoins de l'égarement de beaucoup de chefs d'État, n'est-ce pas? Il fut impliqué dans l'intronisation du second roi d'Israël, David. Il n'y a pas réellement ici de parallèle pour nous, mais il put constater où mène notre raisonnement humain. Il put voir cela des quantités de fois. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je voudrais que nous reportions à Galates chapitre 5, verset 16 maintenant. Galates chapitre 5 et le verset 16. Galates chapitre 5 et le verset 16. Paul énonce ici un principe important qu'Israël aurait dû pratiquer et que nous nous devons de pratiquer. C'était le peuple de l'Éternel. Dieu voulait que ce peuple soit son peuple à lui, un peuple spécial qui montre l'exemple à toutes les nations. Mais le peuple n'était pas d'accord avec ça. Paul a dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et reportons-nous maintenant à Romains chapitre 8, verset 13. Romains chapitre 8 et le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13 et le verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quel que soit le nouveau président ou la nouvelle présidente des Français, la volonté de notre Père Céleste s'accomplira. Nous approchons à grands pas de l'époque du retour de Christ et de l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Sachons demeurer fidèles, comme le fut Samuel. L'Éternel nous a appelés et nous avons répondu, « Me voici ». Puissions-nous, retour de Christ, nous tenir devant notre grand Dieu et notre Maître et Sauveur et leur dire, « Me voici », ayant achevé notre course. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.